Invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT. Vos questions dans une dizaine de minutes au standard 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. On va évidemment parler dans quelques instants de ce qui était redouté avec l'épidémie de coronavirus et la crise économique qu'elle a engendrée, à savoir les grands plans sociaux qui se multiplient au fil des semaines, par exemple là chez Airbus et Air France. Mais commençons par l'entretien que donne Emmanuel Macron aujourd'hui à plusieurs quotidiens régionaux. On commence à découvrir le nouveau chemin que le président de la République entend tracer pour la fin de son quinquennat. Comment le qualifiez-vous, ce nouveau chemin, après la lecture de cet entretien? Êtes-vous confiant, inquiet, circonspect, Laurent Berger?
Si je reprends une de vos expressions, je suis circonspect. On voit pas grand chose pour l'instant. C'est assez flou. Il y a beaucoup de brouillard. Vous savez, moi, j'attendais plutôt l'idée qu'il y avait deux grands défis à poser. Le premier était évidemment la transition écologique. Délibérément s'inscrire dans des investissements massifs dans cette transition écologique. Le deuxième étant la justice sociale. La préoccupation, dans cette interview, il n'y a rien, par exemple, sur la préoccupation des plus pauvres, des plus fragiles, de ceux qui grossissent les rangs des distributions alimentaires dans cette période. Donc, moi, je crois que c'est ça le nouveau chemin qu'il faudrait emprunter. Je ne sais pas ce que je lis pour l'instant.
Il le dit, reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays. Donc, la préoccupation environnementale et sociale, elle est là, noir sur blanc.
Oui, mais vous savez, ce qu'il faudra maintenant, c'est pas des grands discours. Ce qu'il faudra, ce seront des actions concrètes, des actes concrets. Vous savez, sur la question sociale, par exemple, comment on va se préoccuper davantage de ceux qui vont subir gravement la crise, je pense notamment aux jeunes. Est-ce qu'on instaure un accompagnement des jeunes beaucoup plus fort avec, par exemple, l'ouverture du RSA au moins de 25 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est ce que vous demandez, l'ouverture
du
RSA.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir des mesures concrètes. Il y a tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui le font. Nous sommes dans un collectif qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre. On a fait 66 propositions, on a refait des propositions de sortie de crise. Il faut enfin des choses claires. On parle de la rénovation thermique des logements, très bien. Mais combien on met sur la table? Est-ce qu'on va vers un investissement ultra massif dans cette rénovation thermique des logements qui, on le sait, est une vraie solution? C'est ça qu'on veut entendre.
On va décliner un certain nombre de points sur les jeunes. Le président de la République reconnaît qu'ils sont et seront les premières victimes de la crise économique. Il y aura, je le cite, des incitations financières à l'embauche et d'autres mesures pour ces 700 à 900 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail. Donc là aussi, il y a des éléments sur la jeunesse. Peut-être pas le RSA pour les moins de 25 ans.
Non, mais il y a aussi dans cette interview l'idée qu'il y aura un accompagnement avec chaque jeune qui aura une solution. Oui, mais du concret. Vous savez, ça ne se construira pas. Face à la crise qu'on traverse, et même face aux enjeux sociaux et environnementaux, rien ne se construira de façon unilatérale. Il faut embarquer tous les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales ou les acteurs sociaux, associatifs, syndicaux, patronaux, etc. Et moi, ce que j'attends encore, c'est qu'on dise, on va se mettre autour de la table et on va faire cette conférence sociale et écologique qu'attendent, par exemple, les acteurs du Pacte du pouvoir de vivre, ces associations. On va essayer de trouver les solutions ensemble. On n'attend pas, si vous voulez.
C'est encore trop vertical, là, Laurent Berger?
Oui, bien sûr. C'est normal, il a le droit. Enfin,
Président de la République,
mais bien
après
sûr,
tout.
Mais sur la construction de solutions, moi, j'attends l'appel à une mobilisation des acteurs, pas à appliquer des choix qui seraient faits de façon unilatéraux. C'est ça la difficulté.
La rentrée sera difficile, dit-il, sur le plan économique. Et il présente donc l'esprit du plan de relance qui sera dévoilé cet été. Le président de la République dit, et je le cite, qu'il faut rompre avec la maladie française qu'est la préférence pour le chômage. Vieille expression héritée d'un article de Denis Oliven il y a déjà très longtemps de cela. Partagez-vous le constat du président de la République et la philosophie de ce plan? Préférence, lutter contre la préférence française.
Non, mais
pour
cette expression, moi, vous savez, je me mets à la place du salarié qui a déjà été licencié. C'est le cas dans beaucoup de petites entreprises aujourd'hui, qui entend dire qu'il y a une préférence française pour le chômage, alors qu'il avait son boulot, il y allait, il le faisait, et qui, c'est pas une préférence française pour le chômage. Il y a une incapacité à traiter cette question-là, parfois. Mais je trouve ça bizarre de dire ça, après avoir activé le chômage partiel, à ce niveau-là. Et tant mieux que l'État l'ait fait. Et franchement, a plutôt bien géré, le gouvernement a plutôt bien géré cette période de crise sociale et économique pendant le confinement. Moi, je ne crois pas qu'il faille sortir des formules de ce type qui peuvent heurter. Elles peuvent heurter tous ceux et toutes celles qui, aujourd'hui, sont en train de perdre leur boulot. Et donc, entendre dire qu'il y a une préférence française pour le chômage, même s'il cible pas les chômeurs, hein, j'ai bien compris, c'est pas adapté. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. On n'a pas besoin de communication. On a besoin d'action, on a besoin de concret. Et par exemple, sur le chômage, on a besoin de dire, moi j'attendais, de dire, bah du coup, la situation étant différente, on renonce à la réforme de l'assurance chômage. Mmh. On met tout par terre
ça
et on reconstruit quelque chose.
Ça vous continuez à dire bien qu'elle sûr, est caduque, elle doit l'être à cause de la crise.
Elle était injuste, vous savez, je vous l'avais dit, mais elle est caduque maintenant en plus. Elle est inadaptée à la période. Donc moi je crois qu'il faut mobiliser les énergies et pas attendre des discours qui sonnent un peu creux.
Mais à vous écouter, Laurent Berger, j'ai l'impression que vous ne voyez pas de nouveau chemin au moment où le nouveau chemin se formule. Je me trompe ?
Non, à l'heure où je vous parle, j'en vois pas, ouais.
C'est la continuité de la même politique.
Vous m'interrogez sur cette interview donnée hier. Je ne vais pas faire l'exégèse de l'interview. Il y a aussi des choses des fils sur lesquels on peut tirer. Mais ceci étant, non, le nouveau chemin. Je vais vous le dire franchement, ce matin, pour l'instant, je ne le vois pas.
Alors, répondant sur les 35 heures, à une question sur les 35 heures, le président de la République dit que pour l'instant, la priorité est de sauver des emplois. C'est ça la priorité à l'heure actuelle en France. Mais que, je le cite, la France est un des pays où l'on travaille le moins tout au long de la vie en Europe. Partagez-vous ce constat, déjà, et pensez-vous que le président de la République, sans le dire explicitement, soit en train de remettre peut-être en cause les 35 heures ?
Non, c'est un pays où la productivité est une des plus fortes dans le monde. Donc, vous savez, on peut se balancer des chiffres comme ça, les uns et les autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un des pays où la productivité des travailleurs est la plus forte. Il dit pas qu'il y a une remise en cause des 35 heures.
Non.
Il dévie sur cette question-là, sur la question du travailler plus et en plus après sur la question des retraites.
Et de la
durée de cotisation. Franchement, des milliers de gens vont arriver malheureusement au chômage. 800 000 jeunes, il en parle, presque 800 000 vont arriver sur le marché du travail et auront beaucoup moins de perspectives que les générations précédentes. La question, elle est clairement pas de travailler plus. Elle est de travailler tous et de travailler mieux. Avec des contrats fixes, avec de bonnes conditions de travail, etc. Elle est de travailler tous. Ça sera ça le défi. C'est ça le défi qui doit nous mobiliser cet été à la rentrée. Mmh. Et c'est pas autre chose. Donc y a pas de pause pour nous. Le débat sur l'augmentation de la durée du travail, ce serait complètement une ligne rouge et ce serait scandaleux.
Et sur la réforme des retraites, elle n'est donc pas abandonnée, dit le président, elle n'est pas à jeter, elle peut être transformée, dit-il. Et les partenaires sociaux, donc vous, Laurent Berger, notamment, sont invités à se remettre autour de la table dès cet été pour reprendre la concertation sur cette réforme des retraites. La question du nombre d'années pendant lesquelles nous cotisons reste posée, dit le président. Est-ce qu'un possible allongement de la durée de cotisation, c'est pour vous un chiffon rouge ?
Clairement, aujourd'hui, oui. Clairement, aujourd'hui, oui. On est dans une situation très compliquée économiquement et socialement. La priorité des priorités, ça doit être l'emploi. On va pas se remettre à se foutre sur la gueule sur la question des retraites dans cette période. Je le redis très clairement, la CFDT continue d'être pour un système universel des retraites. Parce que ça nous semble beaucoup plus juste, notamment pour les salariés les moins bien dotés pendant leur carrière professionnelle. Donc on peut continuer à discuter du principe et voir quand est-ce que ça pourrait s'appliquer. Mais sûrement pas de le faire cet été, sous l'angle en plus de l'équilibre global des régimes des retraites. Mmh. Parce que c'est de ça dont il s'agit.
Donc vous ne serez pas autour de la table, vous, la CFDT ?
Mais la CFDT, elle voit pas comment, pendant cette période où les plans sociaux se succèdent, où les difficultés d'emploi se succèdent, on va mettre sur comme priorité de la concertation sociale la question des retraites. Donc moi, cet été, on va rester très mobilisés sur l'emploi. On a tout un tas d'initiatives de soutien à nos équipes, de soutien aux salariés, notamment des toutes petites entreprises, mais sûrement pas sur la question des retraites.
J'entends un peu de colère dans votre voix, Laurent Berger.
Mais vous savez, il faut toujours distinguer. Il y a la situation sociale, économique, elle est grave, on en a parlé. Il y a la situation démocratique, elle est quand même tendue. On va pas se raconter d'histoire entre nous. Il y a la situation internationale, vous en parlez suffisamment dans vos matinales, qui est extrêmement inquiétante. On a besoin de refaire cohésion. On refait cohésion autour de quoi ? En gérant les difficultés parce qu'elles sont devant nous. Donc, faut les prendre en pleine figure. Il n'y a pas de démagogie dans mes propos. Oui, il y aura des plans sociaux. Oui, il faudra se battre sur l'emploi. Il faudra trouver des dispositifs innovants dans les territoires, dans les entreprises. Mais on a besoin de perspectives. Et cette perspective, c'est de la justice sociale. C'est de la transition écologique. C'est d'autres indicateurs que le seul indicateur économique pour savoir ce qu'est le progrès dans une société. Enfin, moi, j'attendais ça, en fait. Je vais être très franc.
Encore un mot sur le Ségur de la santé. Le président de la République ajoute aux 6,3 milliards déjà promis, 15 à 20 milliards pour les bâtiments, les équipements, le numérique, dit-il. Il y aura des très fortes revalorisations des salaires, des situations des personnels médicaux, soignants ou non soignants, dit-il également. Les résultats de ce Ségur, comment les jugez-vous? C'est quand même des sommes colossales dont on parle là.
Oui, ce sont des sommes colossales. Sur l'aspect juste rémunération des soignants, où on a un gros retard, les 6,4 milliards ne suffisent pas. Il faut 8 milliards pour que chaque personnel hospitalier ait, dès la fin de ce Ségur, une vision très claire d'une augmentation significative de sa rémunération. Et donc, la négociation se poursuit. Elle est à la fois sur les salaires, elle est sur l'organisation de l'hôpital. Il faut, c'est vrai, donner davantage de capacité de négociation dans les hôpitaux sur l'organisation du travail, parce que les agents en ont marre d'être gérés à coups de circulaires. Donc, cette négociation, elle se poursuit. Elle a été suspendue temporairement, parce qu'il y a sans doute du remaniement dans l'air, des arbitrages à faire. Mais c'est clair, il faut que sur la question des rémunérations, il y a un geste très clair et précis qui se fasse, et que ça peut pas. Les 8 milliards, les 6,4 milliards, ou les 8 milliards, c'est important. Mais ce qu'il faut, c'est que chaque agent le voit concrètement, ce que ça va représenter pour lui. Et donc là, on est encore en négociation. C'est ardu, mais la CFDT et Santé est extrêmement mobilisée sur cette ambition-là.
Vous pensez pouvoir y arriver ou pas ?
Oui, j'espère. Dans une négociation, il faut y aller avec des propositions. Ce qu'on a fait, c'est épais comme ça. C'est très épais comme proposition, pas que sur les salaires, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur la formation, sur l'accompagnement des jeunes professionnels. Mais on espère y arriver. Mais il faut des vraies mesures sur l'augmentation des rémunérations et que ce qui a été annoncé se vérifie. Sinon, ce sera la désespérance totale.
Allez, avant d'aller au standard Airbus, donc, Laurent Berger qui a annoncé un plan de suppression de 15 000 emplois dans le monde. À Toulouse, 3 500 postes pourraient être supprimés selon Force Ouvrière, 600 à Saint-Nazaire, 500 à Nantes. Comment réagissez-vous à l'ampleur de ce plan que Bercy a jugé excessif? Est-ce que vous redoutez des licenciements secs?
Oui, je les redoute, mais au-delà des licenciements secs, ce sont des suppressions d'emplois dans un secteur où les carnets de commandes n'ont pas baissé. Il y a eu du retard. Et moi, je m'interroge toujours de ces entreprises qui réagissent sur les plans sociaux alors qu'il y a des dispositifs maintenant avec l'activité partielle, le chômage partiel de longue durée.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on aurait pu, on pourrait maintenir les emplois.
Il y a un opportunisme.
On pourrait maintenir les emplois et les compétences plutôt que de faire des licences, des suppressions d'emplois alors qu'on aura besoin de ces emplois et ces compétences quand ça repartira. Et puis sur des bassins d'emplois dont certains que je connais bien que vous avez cités, c'est terrible parce que ça ne se limite pas à ces 600, 500 ou 3500 salariés. C'est des tas de salariés de la sous-traitance. Et cela va falloir s'en préoccuper. Et donc, j'ai vu que dans un certain nombre de territoires, il y avait déjà des collectivités territoriales avec les organisations syndicales qui se mobilisaient pour savoir comment fallait faire face en termes d'accompagnement de ces salariés. Mais donc, ces entreprises, celles-ci, comme Air France, il faut qu'ils activent les dispositifs qui existent, qui permettent de maintenir l'emploi au lieu d'aller tout de suite à des suppressions nettes d'emplois.
Mais donc, vous contestez à Airbus la légitimité de ces... Vous dites le carnet de commandes n'est pas vide. Il est retardé, il n'est pas vide. Donc,
il faut maintenir cette décision d'Airbus. Il faut maintenir les emplois et les compétences. Personne ne va nier qu'il y a une crise de l'aéronautique.
Oui.
Bien sûr. Mais personne ne va nier qu'un jour, ça repartira. Et que ça repartira peut-être différemment, avec, j'espère, beaucoup moins d'impact écologique de l'aviation. Mais ceci étant, on aura toujours besoin de ces compétences. Si on se sépare de ces compétences, et si on sépare notamment des compétences dans la sous-traitance, ça ne reviendra pas. Airbus, ça repartira, mais dans la sous-traitance, ça ne repartira pas. Donc, il faut des plans de formation, de chômage partiel longue durée pour faire que les gens se forment plutôt que d'être licenciés. Sinon, on aura, je crois, beaucoup de mal à refaire partir une industrie dans notre pays.
Air France officialise aujourd'hui, on en a dit un mot, son plan de suppression de 7500 emplois, départ naturel non remplacé, départ volontaire, des licenciements peut-être dans le court courrier. En tout cas, ça n'est pas exclu. 15 à 20 000 emplois supprimé chez British Airways, Lufthansa. Les avions sont cloués au sol, là, pour le coup, il n'y a pas d'activité. Quelle alternative aux plans sociaux ? Vous seriez patron, vous feriez quoi à Air France, Laurent Berger ?
À Air France, je mettrais les salariés autour de la les représentants des salariés autour de la table, et je dirais, parce que pour le coup, quand ça repartira, ça repartira. Je dirais comment on fait, comment on active le dispositif de chômage partiel longue durée, plutôt que de supprimer.
On garde tout le monde.
On en garde au maximum. Il y aura des départs naturels. Moi, je suis pas. Il y aura des départs naturels. Il y a des gens qui partent en retraite. On peut gérer des départs progressifs de gens qui sont proches de la retraite. Donc, ça ne veut pas dire qu'on pourra maintenir l'ensemble des emplois. Mais en tout cas, on avant de parler de plan social et de licenciement avec un chiffre de licenciement qui souvent sont appris plus tôt dans la presse pour les représentants des salariés que dans une réunion avec leur patron, on regarde comment on fait des dispositifs alternatifs. Et puis, je proposerai aux salariés d'avoir des transferts entre les différentes entités du groupe Air France, entre Hop et Air France avec Transavia, ce qui paraît assez difficile à faire aujourd'hui.
Vous pensez qu'il y a une facilité là à licencier aujourd'hui quand on voit ces grands groupes annoncer des plans ?
Ceux-là, ils sont impactés par la situation économique. Airbus, Air France. D'autres jouent là-dessus. Nokia, Sanofi. Là, ceux-là, c'est des margoulins, excusez-moi de le dire comme ça. Sanofi, c'est 4 milliards de dividendes versés, c'est pas un problème lié au coronavirus, et on supprime quand même plus de 1000 emplois en France. Nokia, c'est un problème de stratégie et de loyauté des entreprises. Et donc, oui, il faudra distinguer ceux qui sont dans une vraie situation économique et il y a des dispositifs alternatifs à mettre en place et ceux qui vont profiter, vous savez, comme un pétrolier, quand il y a une marée noire, vide ses cuves au large en se disant ça sera ni vu ni connu. Ben, il y a quelques entreprises qui vont faire ça. Celles-là, il faudra les sanctionner durement et être extrêmement exigeant sur leurs responsabilités à l'égard de leurs salariés, mais aussi de leur territoire.
La parole aux auditeurs de France Inter, Corinne. Pour commencer, Corinne, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour et merci de prendre mes remarques.
Je vous en prie.
J'aimerais avant tout dire une chose, je travaille beaucoup et je suis heureuse de faire mon travail. Alors, cultivons la valeur travail. Le chômage, il existe, c'est un progrès social. Il n'est pas question de le supprimer, mais le chômage, il est fait pour remplacer, il est fait pour une mise en attente. La préoccupation principale aujourd'hui de certaines personnes, et je suis désolée d'utiliser ces termes très durs, c'est de comment vais-je enfin pouvoir être au chômage ? J'ai 57 ans, je fais 5 heures du matin, 8 heures du soir. J'aime mon travail et je le fais. Quel est le syndicaliste qui va dire avec moi, oui, il y a un problème en termes de chômage et en termes de gens qui profitent du chômage. J'ajouterai que je ne vote pas FN.
Merci Corinne pour cette question où l'on retrouve la préférence pour le chômage qu'on évoquait en début d'entretien. Laurent Berger ?
Non mais vous savez, moi j'ai été, d'abord, j'ai subi le chômage. Et j'ai été conseiller en insertion professionnelle avec des gens qui étaient très éloignés de l'emploi à Saint-Nazaire. Qu'il y ait des gens qui profitent de tel ou tel système, j'en connais partout. Il y a aussi des gens dans tous les secteurs qui profitent de failles qui peut y avoir. Ce que je sais, c'est que la majorité des gens qui subissent ce chômage souhaitent retrouver du travail. Et donc, moi, je crois que le travail, c'est un facteur d'émancipation, d'inclusion sociale, de bien-être, de lien social. Mais je ne crois pas que majoritairement les gens qui subissent le chômage le choisissent. La preuve, regardez, quand il y a des plans de suppression d'emplois dans les entreprises, les gens, même dans les entreprises les plus difficiles, disent qu'ils veulent continuer à travailler. Vous savez, il y a une tribune qui est parue dimanche dernier de 16 délégués syndicaux de la CFDT dans le nettoyage, dans la restauration, dans la sécurité, qui sont des métiers extrêmement durs, qui ont dit on veut être reconnu, on aime notre travail, mais on veut être reconnu pour le faire. Donc je crois que cette illusion que les gens seraient juste tous des profiteurs quand ils subissent le chômage, je ne suis pas d'accord avec ça.
Raphaël est au standard, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci pour votre émission. Je vous appelle, moi, je suis salarié du secteur aéronautique. Je fais partie d'un grand groupe qui n'est pas Airbus, mais qui est un des grands fournisseurs d'Airbus et une grande société du CAC 40, qui commence par un S. Je suis également représentant du personnel dans mon entreprise. On commence également à avoir des annonces de plans de restructuration qui sont en préparation et avec des négociations au niveau syndical. Nous, ce qui nous choque dans les différents échanges, c'est que on voit effectivement que ce sont les salariés qui sont à nouveau concernés par des plans de restructuration, des départs anticipés à la retraite, etc. À aucun moment, alors qu'on nous parle du gouvernement qui amène de l'argent et finance des projets à hauteur de plusieurs milliards, on entend parler de interdiction de versement des dividendes pour les actionnaires, pardon, les bonifications extrêmes de nos dirigeants. Mmh. Et donc dans la balance, eh ben on se retrouve avec des salariés qui effectivement supportent cette crise à nouveau et des comportements d'actionnaires qui ne bougent pas ou en tout cas aucun contre-pouvoir pour limiter ça. Moi je prends juste l'action Safran, hein, puisque c'est le groupe Safran dont je parlais. Mmh. L'action Safran, elle était à 50 euros en 2015, elle est montée à 142 euros ou un peu plus avant la crise. Ça veut dire que des actionnaires ont quand même fait quasiment x3 sur des investissements.
Raphaël, donnons la parole à Laurent Berger sur l'ensemble des éléments que vous venez déjà d'aborder. Je vous en remercie, évidemment. Arrêt de versement de dividendes, Laurent Berger.
Oui, on l'a réclamé pendant le confinement. On a dit, là où il y a du chômage partiel activé largement, il ne faut pas que les entreprises puissent verser de dividendes. Ça a été en partie respecté par certaines... Moi, je crois que Raphaël, il a raison. Il faut de la responsabilisation des entreprises et des chefs d'entreprise et des actionnaires. Et oui, dans cette période, il faut de la modération. Mais au-delà de ça, moi, je vais vous dire, je pense, et dans l'interview du président hier, il en est question, moi, je pense qu'il faudrait se reposer la question de la répartition de la richesse. Mmh. Il faudrait se reposer la question de c'est quoi une bonne échelle de salaire dans une entreprise, parce qu'il y a des écarts qui sont insupportables. Il faut se demander c'est quoi la conditionnalité qu'on donne aux entreprises par rapport aux aides qu'elles reçoivent.
Alors justement,
aux aides publiques qu'elles reçoivent.
On entendait ici même le patron d'Europe Écologie Les Verts il y a deux jours au micro de France Inter demander l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui ont reçu des aides ou des prêts garantis à la faveur de la crise. Sur ce point-là,
il faudra éviter deux trucs. Il faut, dans cette période de crise économique où on ne peut pas nier, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a des entreprises qui subissent des arrêts très forts. Il faudra éviter le côté on les laisse faire et on fait pas de régulation et on les contraint pas à des dispositifs qui maintiennent l'emploi. Et il faudra éviter les slogans faciles. Des licenciements, moi je vais vous dire, et ça me fait mal de le dire, mais la réalité c'est qu'il y en aura. Et il y en a déjà. Donc le côté répondre à la crise sociale et économique par des slogans, ça marche pas. Mais la question, c'est comment on responsabilise les entreprises qui ont reçu des aides pour qu'elles s'engagent délibérément dans le maintien maximal de l'emploi. Comment ça se passe ? Ça se passera par le dialogue social dans les entreprises, par les contraintes à négocier des accords de maintien de l'emploi plutôt que de licencier facilement à travers des plans sociaux. Mmh. Et donc, moi, je me méfierais des slogans un peu faciles.
Deux questions rapides. Est-ce que vous craignez de nombreux plans sociaux après l'été, comme on le voit parfois, les entreprises décalant leur calendrier d'annonce ?
Oui, il y a des entreprises qui essayent de serrer les boulons en ce moment, mais qui sont en situation très très dure, et j'ai peur que certaines craquent, et donc des faillites ou des suppressions d'emplois massifs, on peut le craindre. Après, il ne faut pas faire peur non plus.
Non, c'est une
Il y a une reprise économique, une reprise qui ne se passe pas si mal que ça. Et donc, il ne faudra pas se servir de cette crise malheureuse pour justifier des suppressions d'emplois et des allègements de coûts pour les entreprises. Ce qui doit nous préoccuper encore plus tout l'été, c'est la question de l'emploi. Et donc, il ne faut pas se laisser perturber par d'autres sujets.
Température, dernière question de la rentrée sociale.
Écoutez, elle sera compliquée. C'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que la CFDT, elle est déjà en train de le faire, mais elle ouvrira des centaines et des centaines de points contact pour les travailleurs, notamment des TPE, les indépendants, les jeunes, mais aussi tous les salariés qui seront impactés par des plans sociaux. Partout dans le territoire, on va ouvrir des centaines de points contact pour être très dans le concret, dans leur accompagnement et dans un syndicalisme de service pour eux.
Monsieur le secrétaire général de la CFDT, merci.
Merci à vous.
Merci Laurent Berger d'avoir été au micro de France Inter ce matin.